43. Combien de force le penseur doit maintenant réunir en lui? Devenir étranger aux considérations des sens, s'élever à l'abstraction. C'est ce qui avait véritablement été considéré autrefois comme de l'élévation. Nous ne pouvons plus avoir tout à fait les mêmes sentiments. L'ivresse, créée par les plus pâles images des mots et des choses, le commerce avec les êtres invisibles, imperceptibles, intangibles, était considéré comme existence dans un autre monde supérieur. Une existence née du profond mépris pour le monde perceptible au sens, un monde séducteur et mauvais. Ces abstractions ne conduisent plus, mais elles peuvent nous conduire. À ces paroles, on s'élançait comme si l'on voulait gravir des sommets. Ce n'est pas ce que contenaient ces jeux spirituels. Ce sont ces jeux eux-mêmes qui furent la chose supérieure dans les temps primitifs de la science. De là, l'admiration de Platon pour la dialectique. De là, sa foi enthousiaste en les rapports nécessaires de celle-ci avec l'homme bon délivré des sens. Ce ne sont pas seulement les différentes façons de connaissance qui ont été découvertes séparément et peu à peu, mais encore les moyens de connaissance en général, les conditions et les opérations qui, dans l'homme, précèdent la connaissance. Et toujours, il semblait que l'opération nouvellement découverte, où les états d'âme nouveaux ne fussent point un moyen pour arriver à toute connaissance, mais le but désiré, la teneur et la somme de ce qu'il faut connaître. Le penseur a besoin de l'imagination, de l'élan, de l'abstraction, de la spiritualisation, du sens inventif, du pressentiment, de l'induction, de la dialectique, de la déduction, de la critique, du groupement des matériaux, de la pensée impersonnelle, de la contemplation et de la synthèse. Et non au moindre degré de justice et d'amour à l'égard de tout ce qui est. Mais tous ces moyens ont été considérés une fois, chacun séparément, dans l'histoire de la vie contemplative, comme but et comme but suprême. Et ils ont procuré à leurs inventeurs cette béatitude qui emplit l'âme humaine lorsqu'elle s'éclaire du rayonnement d'un but suprême. 44. Origine et signification. Pourquoi cette pensée revient-elle sans cesse à mon esprit ? Et prend-elle des couleurs de plus en plus vives? La pensée qu'autrefois, les philosophes, lorsqu'ils étaient sur la voie de l'origine des choses, s'imaginaient toujours qu'ils trouveraient quelque chose qui aurait une signification inappréciable pour toute espèce d'action et de jugement. On admettait même préalablement que le salut des hommes devait dépendre de l'intelligence qu'il avait de l'origine des choses. Maintenant, au contraire, ainsi se complétait ma pensée. Plus nous nous livrons à la recherche des origines, moins notre intérêt participe à cette opération. Toutes nos évaluations, au contraire, tous les intérêts que nous avons placés dans les choses, commencent à perdre leur signification à mesure que nous reculons dans la connaissance pour serrer de près les choses elles-mêmes. Avec l'intelligence de l'origine, l'insignifiance de l'origine augmente. Tandis que ce qui est proche, ce qui en nous et autour de nous commence peu à peu à s'annoncer riche de couleurs, de beauté, d'énigmes et de significations, dont l'humanité ancienne ne se doutait pas en rêve. Jadis, les penseurs rôdaient comme des bêtes enfermées, dévorées d'une rage secrète, l'œil toujours fixé sur les barreaux de leur cage, bondissant contre ces barreaux pour essayer de les briser. Et bienheureux semblait être celui qui, à travers un interstice, croyait voir quelque chose du dehors, de l'au-delà et du lointain.